Montpellier, sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 19h sur Radio Aviva.
Le flash local, Benjamin Thio.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi 22 avril, candidature pour les collèges. Aujourd'hui commence l'appel à candidature à destination des collèges désireux de participer au prix des collégiens. Ce prix littéraire, organisé par la médiathèque départementale, est l'occasion de développer la lecture pour tous dans les collèges, en partenariat avec les professionnels des métiers du livre. Créé en 2006 pour développer la lecture auprès des collégiens, le prix littéraire revient dès septembre prochain. Les élèves retenus pourront rencontrer des auteurs et des professionnels des métiers du livre. L'objectif est de développer le goût et la pratique de la lecture chez les plus jeunes, ainsi que développer leur esprit d'analyse et leur sens critique, mais également de s'initier et participer à la vie démocratique et citoyenne dans l'Hérault. City One recrute. City One, spécialisé dans l'univers du service et des métiers de l'accueil, lance une campagne de recrutement à Montpellier. Le groupe recherche activement 60 hôtes ou hôtesses en vue d'un événement d'envergure qui se tiendra du 2 au 7 juin prochain à l'Arena de Montpellier. Dans le respect de sa politique de masculinisation et d'inclusion, les postes proposés sont ouverts à toutes et tous. Nouveauté dans les transports, les habitants d'Occitanie seront les premiers en France à pouvoir se déplacer dans des cars alimentés par l'hydrogène vert sur des lignes quotidiennes. Mercredi dernier, Carole Delga a inauguré à Albi les deux premiers cars n'émettant aucun CO2. C'est dans le cadre du projet européen Corridor H2 visant à décarboner massivement le transport de voyageurs et de marchandises que la région a engagé la transformation de 15 autocars diesel. Ce projet est rendu possible grâce au kit H2 Pack imaginé par l'entreprise albigeoise Safra dans le cadre France 2030. Cette technologie permet de prolonger la vie des véhicules diesel déjà en service tout en rendant leur circulation totalement décarbonée. Les deux premiers cars seront mis en service d'ici la fin du mois et les 13 autres d'ici la fin de l'année. 7,2 millions d'euros sont mobilisés par la région pour ce projet. Santé des femmes. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, la Mutualité française Occitane organise une tournée de 4 soirées placées sous le signe des femmes et de leur santé. Avec comme animatrice des débats, Chantal Biermann, une sage-femme militante pour la défense du droit des femmes. Le but est d'explorer cette thématique en deux temps, en commençant par la projection d'un documentaire intitulé « Santé des femmes, de l'ignorance à la reconnaissance » de Ursula Duplantier et Martha Scherer. Traitant du domaine médical dont la référence reste le corps masculin, négligeant souvent les particularités de celui de la femme. En deuxième temps, un débat autour de la santé au féminin, notamment de la charge mentale au quotidien, des enjeux de la prévention et du dépistage, ainsi que du système de santé. C'est la fin de ce Flash Info, à bientôt sur Aviva.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous, ce soir le ciel est dégagé sur l'ensemble du département. Les températures descendront à 14 degrés en moyenne durant la soirée, avec des pointes à 7 durant la nuit à Lunel. Demain mardi, un temps pluvieux sera au rendez-vous. On attend 6 degrés à Montpellier le matin et 17 degrés à 7 l'après-midi. Je vous souhaite de passer une belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva, l'invité de la rédaction.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en compagnie de Bati Orsini et Paul Lamy, tous les deux étudiants en M2 STAPS à Montpellier et également organisateurs du projet de la journée des activités physiques adaptées. Bonjour.
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 Alors si l'on vous reçoit aujourd'hui, c'est justement pour présenter cette 22e journée des activités physiques adaptées, la JAPA, qui a lieu le 25 avril à l'UFR STAPS de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, cet événement ?
Alors on peut, oui, déjà merci de nous recevoir. Et donc avant de parler de la JAPA, on voudrait juste vous parler de l'activité physique adaptée, ça pour que tout le monde sache de quoi on parle.
Donc en fait, l'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui est d'abord pratiqué par des enseignants d'activité physique adaptée pour des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des maladies chroniques ou alors qui sont âgées, pour leur permettre de mieux vivre avec leurs différentes pathologies et quoi qu'elles soient plus autonomes.
Et du coup, la journée des activités physiques adaptées, donc la JAPA, c'est un événement qui se passe tous les ans. Donc comme vous l'avez dit, c'est la 22e édition. Et chaque année, en fait, on choisit une thématique. Et du coup, cette année, c'est l'activité physique adaptée au service des fluctuations hormonales de la femme. Et donc, c'est notre thématique. Et la journée, tout l'événement, il se décompose en deux parties. La première partie, c'est dédiée à des conférences. Donc du coup, on a, par exemple, on a un endocrinologue qui vient, des professionnels en APA, donc cadre en APA et enseignant en activité physique adaptée, sage-femme aussi, qui vont nous parler du coup des fluctuations hormonales, des changements qui arrivent. On fait un crochet aussi sur l'endométriose, sur la grossesse, le postpartum, et on va jusqu'à la ménopause. Et donc ça, c'est toute la matinée qui est consacrée à ça, avec du coup des échanges, des conférences qui durent 20 minutes. Et du coup, après, tant de questions-réponses et tout ça. Et l'après-midi, la deuxième partie, c'est un salon qui est du coup à visée plus interactive. Et en fait, c'est des différents stands au Palais des Sports de Véracy où différents professionnels et différents partenaires viennent. Et l'objectif, du coup, c'est de pouvoir échanger avec eux. Certains vont faire des interventions. Donc, comment l'activité physique adaptée peut rendre service, par exemple, aux femmes atteintes d'endométriose. Donc, par exemple, pour tout ce qui est gestion de la douleur et de la fatigue. Mais aussi, différents partenaires. Donc, je crois qu'on a 8 stands actuellement. Et du coup, on peut échanger avec eux, parler du coup de l'activité physique adaptée, des fluctuations hormonales et comment les deux peuvent travailler ensemble.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la genèse du projet? Pourquoi vous avez choisi ce thème-là spécifiquement cette année et comment ça s'est mis en place?
Alors du coup, c'est un projet qu'on a vu du coup d'abord avec l'association Activité physique adaptée de la fac, PROMAPA. Et en fait, c'est avec tout le groupe de la promo M2, donc RAPA et GESAPA, c'est les deux masters qu'il y a à Montpellier. Et en fait, c'est par petits groupes, chaque groupe a décidé d'un thème. Ensuite, on les a tous rassemblés et on a tous choisi, on a voté, tout ça. Et du coup, cette année, c'est tombé sur ce thème, sur cette thématique-là.
Je me permets de rajouter quelque chose. En fait, on devait choisir des thèmes qui devaient être quand même pertinents et surtout pertinents avec toutes les informations, avec toute l'actualité de ces derniers temps. Donc on a plusieurs thèmes qui sont arrivés, comme des maladies cardiovasculaires, aussi les Jeux Olympiques, mais c'est des choses qui ont été vues et revues, et on a trouvé que les problématiques liées aux fluctuations hormonales des femmes étaient un sujet pas assez abordé, surtout dans notre société, et donc c'est pour ça qu'on a souhaité le mettre en avant aussi, parmi toutes les propositions qu'il y a eu.
Et au-delà même de, au niveau, on va dire, discussion de comptoir, comme on dit, au niveau de la société, mais même au point de vue, les littératures scientifiques, parce que du coup, dans l'activité physique adaptée, on se base beaucoup sur la littérature scientifique, qu'est-ce qu'il faut faire et comment. Et en fait, on n'a pas beaucoup de ressources là-dessus. Et surtout que, on se dit que les fluctuations hormonales chez la femme, ça touche quand même quelques personnes sur Terre. Donc, on se dit que ça peut rendre service.
Alors, quels ont été vos rôles respectivement dans la programmation de cette journée?
Alors moi, du coup, je suis chef de projet, enfin co-chef de projet. Et du coup, voilà, j'étais à la tête du coup des responsables de commission et tout ça. Et voilà.
Et moi, je faisais partie de la commission budget où je devais vraiment, donc on devrait planifier tout ce qui était budget pour le répartir sur les différentes parties de la journée en fonction des différents financeurs aussi, pour quel budget on a le droit d'utiliser pour quelle chose et faire en sorte que quand on a des soucis, trouver des sous ailleurs. Voilà.
Où est-ce qu'on peut trouver le programme de cette journée? Vous l'avez dit, il va y avoir des conférences, des spécialistes qui vont venir parler un peu du sujet, des démonstrations, il y a des stands différents.
C'est ça. Alors c'est très compliqué, il faut aller du coup sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc après vous avez du coup JAPA, donc J-A-P-A. Et du coup là vous avez toutes les infos, donc vous avez le lien Linktree, ça s'appelle, du coup vous cliquez dessus, vous avez tout ce qu'il vous faut là-dessus. Et voilà. Et du coup, après, on va pas tarder. Dans quelques jours, on va afficher. Du coup, il y aura différentes affiches, flyers. D'ailleurs, je vous en ai amené aussi aujourd'hui. Et du coup, vous avez un QR code qui vous donne accès, du coup, à l'inscription. Et l'événement est totalement gratuit aussi.
Alors, l'événement est gratuit. Et est-ce que tout le monde peut y aller ou est-ce que c'est destiné spécifiquement aux étudiants, spécifiquement éventuellement aux étudiants de STAPS?
Alors, c'est ouvert à tout le monde, oui. C'est vrai que la cible première de l'événement, ça reste quand même les étudiants STAPS APA, parce que du coup, c'est pour former les futurs étudiants et donc les futurs professionnels à ces thématiques-là, du coup, qui est l'activité physique adaptée. Mais c'est vrai que sur cette thématique qui est encore plus large, qui peut intéresser beaucoup de monde, rien qu'au point de vue connaissance personnelle, et puis même si certaines personnes ont dans leur entourage des personnes atteintes d'endométriose ou qui vont passer par la grossesse et d'autres par la ménopause, par exemple, et on trouve aussi que c'est super intéressant même pour eux, du coup de savoir comment pouvoir agir et même avoir la connaissance personnelle là-dessus. Donc ouais, c'est ouvert à tout le monde.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée?
La réussite.
Et pas trop d'imprévus.
Voilà, pas trop d'imprévus. Non mais ça va le faire, franchement. On a, avec Paul par exemple, on a été bénévole l'année dernière sur cet événement et c'est cool, franchement, on s'est vraiment éclaté. Rien qu'au point de vue rencontre, en fait, parce qu'on peut rencontrer vraiment des professionnels d'un peu partout. Et même hors de l'APA, on peut rencontrer différentes personnes. Mais je pense, par exemple, on a des sages-femmes, par exemple, cette année qui viennent. Et c'est des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, pour le coup, et ni même de parler de ces sujets-là. Et c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Et même pour nous, du coup, au niveau personnel et même au niveau futur professionnel, on trouve ça vraiment, vraiment top.
Alors, on vous souhaite cette réussite et peu d'imprévus, ou en tout cas des imprévus bien gérés, parce qu'il y en a toujours un petit peu. On rappelle que la 22e journée des activités physiques adaptées a lieu le 25 avril à l'UFR STAPS de Montpellier, de 9h à 17h.
C'est ça.
Nous étions en compagnie de Batty Orsini et de Paul Lamy, tous les deux membres de l'organisation de la journée. Merci.
Merci à vous.
Votre émission est terminée. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet www.radio-aviva.com.
Radio Aviva, l'invité de la rédaction.
Dans ta maison.
Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson.
35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque, ou presque encore.
Jusqu'au dernier refrain, jusqu'au dernier. qu'on passe à table. On accepte l'inacceptable quand de nous peut manquer
de chaleur et d'amour, mais qui volera son secours dans la nuit de janvier. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson.
35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque,
presque,
ou presque encore aller.
Alors on va crier qu'on reste,
nous on reste jusqu'au dernier.
On va tout essayer, on reste, nous on reste jusqu'à la fin de la fin,
la fin, de la fin.
Jusqu'au dernier refrain,
jusqu'au dernier.
On reste
jusqu'au dernier.
Sport vous présente Lundi Sport sur Aviva. Lundi Sport avec Alain Marot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Lundi Sport du 22 avril. On va faire le tour de l'actualité sportive du week-end chez nous et un peu partout sur la planète, en commençant par dire bonjour à Alain Marot. Bonjour Alain.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et on démarre par les résultats de la 30e journée en Ligue 1 de football.
Et une bonne nouvelle, la victoire précieuse pour le maintien de Montpellier hier après-midi à Reims, 2-1. Le MHSC avait ouvert la marque de la tête par le défenseur Modibo Sagnan à la 26e minute, puis a été rejoint par les Rémois en deuxième mi-temps avant de reprendre l'avantage définitivement sur un compte de Moussa Al-Tamari qui venait juste de rentrer en fin de match. 8 points séparent les Montpellierains de l'actuel barragiste Le Havre. Autant dire que l'affaire semble bien engagée pour les Payadins, quasiment maintenue. Hier après-midi, victoire importante de Monaco à Brest 2-0. Le club de la Principauté s'empare de la deuxième place avec 2 points d'avance sur les Bretons. Décevant. A noter que les Monégasques ont fini à 9, mais ont un pied en Ligue des Champions. Hier soir, Paris, le leader, a étrié Lyon 4-1. Il pourrait décrocher un 12e titre de champion après-demain en cas de victoire à Lorient. Lille, qui a battu 1-0 Strasbourg, conforte sa 4e place à 1 point du podium. Vendredi soir, Nice avait dominé Lorient 3-0, renouant avec le succès après près de 3 mois d'attente. Le dernier Clermont, battu à Lens 1-0, se rapproche de la Ligue 2. En revanche, Metz a réussi un joli coup au Havre en s'imposant 1-0. Les Lorrains sortent de la zone rouge.
Résultat de la 33e journée en Ligue 2.
Samedi après-midi, très belle performance de Rodez, vainqueur du leader Auxerre 2-0, deux buts marqués en deuxième période. Un succès qui relance les Ruthénois, classés 5e dans la course au play-off. Angers, qui a battu 3-2-1, est à 3 points des Auxerrois. Enfin, Saint-Etienne, vainqueur de Bordeaux 2-1, conforte sa 3e place.
Championnat national, 30e journée.
Vendredi soir, malmené à Orléans, Nîmes a résisté. Il a emporté 1-0, un pénalty de Mbina. À 4 journées de la fin, les Crocos 13e sont toujours dans la zone rouge. Le maintien reste quand même envisageable. Malgré une défaite contre Dijon 2-0, la première à domicile, le Restart monte en Ligue 2 grâce au nul entre Martigues et Cholet 2-2. Les Audoniens ont passé 5 ans en national. L'Étoile Rouge a 10 points d'avance sur son dauphin Niort, qui jouera ce soir à Sochaux.
On en vient au championnat amateur national de groupe A.
23e journée, samedi soir, victoire d'Alès devant Fréjus, Saint-Raphaël 1-0. National 3, 23e journée, samedi, la réserve de Montpellier a été tenue en échec par Rousset 0-0. Agde a été accroché par Canet-Rocheville 2-2. Nul de Beaucaire à Fos-sur-Mer 0-0. Enfin, hier, défaite de Saint-Clément-Montferrier face au leader Istres 2-0.
Foot féminin, Ligue des Champions, demi-finale, allez.
Samedi soir, Lyon a renversé en 6 minutes Paris. 3-2 devant 38 000 personnes, record d'affluence. Dans l'autre demi, Chelsea a pris une option en gagnant à Barcelone le tenant du titre 1-0.
Et avant de refermer cette page football, un résultat du championnat de futsal.
Division 2, poule B, vainqueur samedi de Garges-lès-Gonesse 2-1. Montpellier retrouve la Division 1, 6 ans après l'avoir quittée.
passe au rugby, la 21e journée du Top 14.
Samedi après-midi, les Perpignanais, tout en puissance et en maîtrise, ont explosé les Lyonnais 51 à 20, marquant 7 essais. Une victoire bonifiée qui permet à l'USAP de pointer à la 8e place avec 11 points d'avance sur l'actuel barragiste Montpellier, où la situation reste préoccupante. Le MHR n'a pas démérité à Pau, mais s'est incliné 23 à 31, manquant de réalisme. Avant-dernier à 4 points du premier, non relégable, Lyon, les cistes vont trembler, d'autant qu'ils reçoivent samedi prochain le voisin catalan dans un match capital dans la course au maintien. En tête du championnat, le Stade français a souffert avant de battre Bayonne 28 à 24. Les Parisiens ont 6 points d'avance sur Toulouse, battu hier soir à Toulon 19 à 20.
La 27e journée de la Pro D2.
Vendredi soir, Béziers s'est incliné à Aurillac 7 à 27. La SB laisse échapper Aix-en-Provence et Vannes, victorieux à l'extérieur. Les Biterrois 3e sont à 6 et 5 points des Aixois et Bretons. Et
également, suite du tournoi féminin des 6 nations, la 4e journée.
Hier après-midi à Cardiff, les Françaises ont poursuivi leur sans-faute en écrasant les Galloises 40 à 0, marquant 6 essais, dont un inscrit par la Montpellieraine Romane Ménager. Avec ce succès bonifié, les Bleus reviennent à un point des Anglaises qui, samedi, avaient écrabouillé les Irlandaises 88 à 10. Samedi prochain, les Tricolores disputeront à Bordeaux une finale au sommet contre les Red Roses, quintuple tenante du titre avec l'objectif de remporter le Grand Chelem.
Rugby à 13, 8e journée en Super League.
Samedi soir, les Dragons catalans ont dominé Hull 36 à 6, un succès qui leur permet de rester en tête du championnat avec 2 points d'avance sur Saint-Hélens.
Les sports en salle, basket, quart de finale, aller des playoffs.
Vendredi soir, les Gazelles de Latte Montpellier se sont imposées chez le promu bourguignon Charnay 77 à 62 et ont fait un pas vers les demi-finales. Match retour demain soir à Latte.
En bas, le final de la Coupe de France.
Samedi soir, Nantes survolté a étouffé Paris apathique 31 à 23 et conserve le trophée, le troisième de son histoire.
On passe à l'athlétisme, ouverture de la Ligue de Diamants à Xiamen en Chine.
Samedi, Armand Duplantis a battu son propre record du monde de saut à la perche en passant 6,24 m à sa première tentative. À 95 jours des Jeux, le Suédois de 24 ans améliore d'un centimètre et pour la 8e fois son record. Le double champion du monde est bien parti pour conserver son titre olympique et aller encore plus haut. À ce même meeting, Sirena Samba Mayela a battu le record de France du 100 mètres haies en 12 secondes 55, prenant la 3e place de la course.
On ouvre une page sport mécanique automobile Grand Prix de Chine de Formule 1 sur le circuit de Shanghai.
Hier, le triple champion du monde Max Verstappen s'est encore imposé. Le pilote néerlandais a ajouté un 30e Grand Prix à son palmarès. Il y a du mieux dans l'équipe alpine. Esteban Ocon a terminé 11e et Gasly 13e.
Rallye de Croatie, 4e manche du championnat du monde.
Victoire hier de Sébastien Ogier au volant de sa Toyota devant le Gallois Evans et le Belge Neuville. Le pilote gapensé de 40 ans, octuple champion du monde, s'est montré le plus régulier avant de signer son 59e succès.
Un mot de moto, la 47e édition des 24 heures du Mans.
La Suzuki numéro 12, pilotée notamment par le Charentais Greg Black et le Rodanien Étienne Masson, a remporté hier l'épreuve, offrant au constructeur japonais sa 15e victoire, un record.
Cyclisme, 110e Liège-Bastogne-Liège.
Succès hier après-midi en solitaire de Tadej Pogačar, le champion slovène de 25 ans, après s'être échappé à 34 km de l'arrivée, a enlevé pour la deuxième fois de sa carrière la doyenne des classiques. À une minute, Romain Bardet a pris une bonne deuxième place devant le néerlandais Mathieu Van Der Poel.
VTT, 2e étape de la Coupe du Monde à Araxá au Brésil.
Hier, un incident mécanique dans le dernier tour a privé Victor Koretsky de remporter la course, victime d'un saut de chaîne alors qu'il était en tête. Le Biterrois de 29 ans termine deuxième derrière le Danois Simon Andreassen. La veille, le licencié du vélo-club Narbonnais s'était imposé en short race devant l'Américain Christopher Blevins. Des résultats plutôt encourageants avant les JO.
Waterpolo, championnat élite, 17e journée.
Pas d'exploit pour Montpellier, battu de peu à Tourcoing, 14 à 16. Lourd revers de 7 dans son bassin face à Aix-en-Provence, 5 à 14. Ce qui n'empêchera pas les poloïs sétois de disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine.
Tennis de table Pro A, 15e journée.
Hier, l'Alliance Nîmes-Montpellier a fait un pas de plus vers le maintien après sa victoire contre Angers, 3 à 1. Les frères Lebrun ont encore fait la différence.
Et Alain, avant de refermer ce lundi sport du 22 avril, un résultat de baseball.
La 3e journée en division. Hier, les Barracudas de Montpellier ont d'abord perdu 6-4 face à Sénart, puis écrasé les mêmes adversaires 11-1. Les Héroletés sont 5e.
Eh bien, merci beaucoup Alain pour toutes ces informations. On se retrouve dès la semaine prochaine.
Lundi prochain, pour être précis, avec toujours autant de plaisir.
Exactement. Au revoir Alain.
Au revoir.
m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boers. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Les sorties et les loisirs dans les roues.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et les sorties à venir. Le 25 avril aura lieu la 22e journée des activités physiques adaptées. Cette journée se déroulera à l'UFR STAPS de Montpellier et portera sur les fluctuations hormonales de la femme. Au programme, plusieurs conférences auront lieu avec la présence de chercheurs et de différents spécialistes ainsi que diverses activités, stands et démonstrations. L'entrée est gratuite à condition de s'être inscrit au préalable. Pour ce faire, rendez-vous sur la page internet de l'événement. Cupidon est un con, voici le nom de cette nouvelle pièce de et avec Kevin Bourges, accompagné sur scène de Céline Cara. Si de nombreuses histoires d'amour finissent mal, la pièce vous en donne la raison. C'est à cause de Cupidon qui, au royaume des dieux, est de plus en plus contesté. Une pièce drôle et originale à retrouver au Kawa Théâtre le 26 avril à 21h. Concernant les tarifs, les places sont à partir de 17,50€. Pour plus d'informations et pour prendre vos billets, rendez-vous sur le site internet du théâtre. Le samedi 27 avril, dans toute la France, se déroulera la 26e édition de la fête de la librairie indépendante. Pour l'occasion, plus de 500 librairies offriront à leurs visiteurs une rose et un recueil de poèmes de Jacques Roubaud, poète de renom qui sera mis à l'honneur. Pour vivre cet événement à l'échelle locale, rendez-vous dans les différentes librairies indépendantes de Montpellier telles que Soramps, Le Grain des Mots ou encore Fier de l'être. Le 27 avril, au soir, changement d'ambiance avec les Fatal Picards qui enflammeront le Rockstore. Allant de la chanson française au punk, avec toujours une grande touche de second degré et d'humour, le groupe, comme à son habitude, fera de la scène son air de jeu. Le groupe Bagdad Rodeo assurera la première partie de cette date. Pour prendre vos places, le prix est de 28€ par personne. La traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants de la ville de Castelnau-le-Lez aura lieu cette année le 28 avril au Théâtre Kiasma. Le maire, certains élus ainsi que différents services municipaux seront présents. L'occasion pour les nouveaux arrivants d'échanger et de trouver des réponses à leurs potentielles questions. Un apéritif sera également proposé. Pour recevoir une invitation, contactez le service protocole de l'événement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville. C'est tout pour cet agenda. À bientôt sur Radio Aviva.
Vous cherchez un job ? Vous êtes sur la bonne fréquence. Les rendez-vous de l'emploi, Radio Aviva s'intéresse à votre avenir et vous propose 3 offres d'emploi.
Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'emploi. Comme tous les jours, je vous propose 3 offres accessibles sur le site France Travail. La première est un poste de réceptionniste de nuit à Montpellier. Pour ce CDI de 39 heures, vos missions. Vous serez en charge d'assurer l'accueil des clients dans la joie et la bonne humeur et d'effectuer le suivi des réservations. Avoir le sens du service, assumer ses responsabilités et être à l'écoute sont les compétences attendues. Un an d'expérience exigée. Pour les intéressés, le numéro de l'offre, 172 WCGM. La deuxième offre est un poste d'agent de stérilisation à Montpellier. Pour ce CDI de 35 heures, vos missions. Vous serez en charge de nettoyer, désinfecter et ranger l'installation sanitaire. Organiser son travail selon les priorités et avoir le sens du service sont les compétences attendues. 6 mois d'expérience exigée. Le numéro de l'offre, 172-VGZJ. Et pour terminer, la dernière offre est un poste d'opérateur-opératrice en télésurveillance à Montpellier. Pour ce CDI de 35 heures, vos missions. Vous serez en charge de repérer les anomalies, incidents, ainsi que d'informer les forces de l'ordre et les clients. Faire preuve de rigueur, d'autonomie et de précision sont les compétences demandées. Débutant accepté. Le numéro de l'offre, 172-VDGJ. Voilà, c'est tout pour ces rendez-vous de l'emploi. Je vous souhaite du courage dans vos recherches. À bientôt sur Radio Aviva.
Vous cherchez un job ? Vous êtes sur la bonne fréquence.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à tous. Un jeune homme de 15 ans interpellé aujourd'hui à Grande-Synthe, dans le Nord. Cet adolescent avait été passé à tabac samedi dernier sans que son pronostic vital ne soit engagé. Cette interpellation entrerait dans le cadre de l'enquête sur la mort de Philippe, ce jeune homme de 22 ans, décédé le 16 avril dernier des suites d'une violente agression sur un parking situé à proximité de la mairie de Grande-Synthe. Kenji Girac sur la table d'opération. Le chanteur de 27 ans subit en ce moment même une opération à l'hôpital de Bordeaux après avoir été blessé par balle la nuit dernière à Biscarrosse, dans les Landes. Le chanteur aurait évoqué la mauvaise manipulation d'une arme achetée dans une brocante, une arme qui aurait été retrouvée dans un buisson. Le chargeur, lui, en revanche, n'a pas été retrouvé, ni sur l'arme, ni à proximité. Des prélèvements de poudre ont également été effectués sur l'artiste ainsi que sur sa compagne. Il y aura bien des trains pour les ponts du mois de mai. Les quatre syndicats de la SNCF qui menaçaient de faire grève ont finalement signé un accord avec leur direction. Les discussions portaient sur les fins de carrière des cheminots. L'accord prévoit notamment une amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les cheminots qui auraient occupé des postes à la pénibilité avérée. Un accord qui compense les effets de la réforme des retraites selon les syndicats. C'est une réforme très redoutée également. De nouvelles règles sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi seront mises en place au 1er juillet prochain. Une annonce du gouvernement ce soir par voie de communiqué. Le but sera de favoriser le retour rapide en emploi des chômeurs indemnisés. Concrètement, cela devrait se traduire par un durcissement des règles d'indemnisation, notamment concernant le temps qu'il faudra avoir travaillé pour bénéficier de l'allocation chômage. Et puis le juteux business des jeux d'argent. Le chiffre d'affaires a atteint plus de 13 milliards d'euros en France en 2023, en hausse de 3,5% par rapport à 2022. Une hausse qui concerne tout type de jeux, particulièrement les casinos et le poker. Notez également que ce sont près de 27 millions de Français qui sont joueurs réguliers de la Française des Jeux. Voilà pour l'actualité. Belle soirée à tous. À notre écoute.
Tout de suite, retrouvez l'actualité nationale et internationale de nos correspondants à Paris.
Bonjour Margot.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. Trois Israéliens ont été percutés ce matin par une voiture dans le quartier de Romema, Jérusalem. Les deux terroristes qui ont tenté d'ouvrir le feu sur les victimes ont été arrêtés. Les forces de police ont donc arrêté les suspects. Le terroriste qui a assassiné il y a 10 jours le jeune Binyamin Hachimer, 14 ans, a été appréhendé cette nuit par les forces de sécurité israéliennes. Il s'agit d'un assaillant âgé de 21 ans et originaire du village de Douma dans la région de Binyamin. En prévision de la future opération de Tsahal à Rafah, Israël devrait considérablement étendre la zone humanitaire à Gaza depuis Al-Mawazi dans le sud jusqu'à la périphérie de Nuseirat au centre. 1 million de personnes déplacées pourraient être accueillies. 5 hôpitaux de campagne supplémentaires ont également été construits. 62%, c'est la proportion d'Israéliens qui estiment que les responsables des échecs du 7 octobre doivent démissionner. C'est en tout cas ce qu'indique un sondage mené par l'Israel Democracy Institute. 51% des sondés pensent notamment que des élections devraient avoir lieu avant la fin de l'année. À noter que le chef du renseignement militaire israélien a annoncé ce matin sa démission en reconnaissant sa responsabilité dans l'échec du renseignement qui a conduit au massacre du 7 octobre. Alors que des informations ont circulé ce week-end affirmant qu'Israël craignait que seulement 40 des 133 otages aux mains du Hamas soient encore en vie, le Shin Bet a démenti hier ces chiffres. Les détails avec notre correspondante sur place, Cathy Bisraor.
Mais d'abord, il faut rappeler ce qui s'est passé hier dans un des grands médias britanniques et également d'ailleurs américains. Des informations dramatiques ont été publiées comme quoi, en fin de compte, sur les 133 otages, il y aurait seulement 40 qui seraient actuellement vivants et tous les autres auraient soit péri, soit été assassinés par le Hamas. Ce sont les informations qui ont été diffusées à l'étranger. Vous imaginez évidemment l'émoi qu'a pu provoquer de telles informations. Il faut rappeler également qu'il y a énormément de fausses informations qui circulent autour de ces otages depuis des mois et des mois maintenant. Maintenant, vu la gravité de ces informations, d'une manière exceptionnelle, le Shabak, c'est-à-dire le Shin Bet, le service de la sécurité intérieure, qui sont responsables, qui coordonnent en fait toutes les informations sur les otages, sont intervenus et ont démenti ces informations en disant que contrairement à ce qui avait été publié, parce qu'il avait été publié que c'était les informations venaient directement du Shin Bet, des services de la sécurité, le Shin Bet dit hier soir, ce ne sont pas nos informations, ce ne sont pas nos sources, nous n'avons absolument pas donné ces informations, donc démenti catégorique des forces israéliennes. Ceci dit, il faut tout de même rappeler que sur les 133 otages qui sont retenus, qui sont aux mains du Hamas, on sait, et en Israël on a reconnu que 36 le Hamas détient des corps d'otages, et c'est clair qu'une beaucoup d'inquiétudes sur un certain nombre d'autres otages, notamment des personnes âgées. Cette information avait été déjà diffusée par les services israéliens, et malheureusement, en tout cas, Israël n'a pas d'informations très claires sur ce qui se passe dans l'état de ces 133 otages.
Israël convoquera ce lundi les ambassadeurs de 6 des 12 pays qui ont voté la semaine dernière en faveur de la résolution de l'Algérie concernant l'adhésion des Palestiniens à l'ONU. Sont concernés la France, le Japon, la Corée du Sud, Malte, la Slovaquie et l'Équateur. À noter que les États-Unis avaient opposé leur veto. Le Royaume-Uni et la Suisse se sont quant à eux abstenus. Ce serait une première. Le gouvernement américain prévoirait d'imposer des sanctions contre le bataillon Netzar Yehuda de Tzal. La raison invoquée, des violations présumées des droits de l'homme sur des Palestiniens en Cisjordanie. Le ministre israélien de la Défense, qui s'entretiendra prochainement avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, demande d'agir à tous les niveaux pour faire comprendre à Washington l'importance de soutenir les opérations de Tzal qui sont menées dans le respect du droit international. Fermez les guillemets. Depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël le 7 octobre, les campus américains sont le théâtre de tensions. À l'université New Yorkaise, de Columbia, des étudiants pro-palestiniens manifestent depuis plusieurs jours et réclament que la prestigieuse école coupe ses liens financiers avec Israël. Raphaël Usan.
Protestant contre la guerre menée par Israël à Gaza, des étudiants pro-palestiniens de l'université new-yorkaise de Columbia, qui a un programme d'échange avec Tel Aviv, réclament que l'établissement boycotte toute activité en lien avec Israël. Une centaine d'entre eux qui avaient lancé une occupation des pelouses du campus ont été interpellés jeudi par la police. Selon le journal étudiant Columbia Spectator, un groupe d'une dizaine de contre-manifestants pro-israéliens a été confronté à des cas d'antisémitisme sur le campus ce samedi soir, d'après des entretiens avec des étudiants et des vidéos.
Et ce dimanche, à la veille de la Pâque juive qui commence ce soir, Joe Biden a fustigé les récentes manifestations anti-israéliennes qui ont eu lieu à l'université de Columbia.
Le président américain a qualifié d'antisémitisme flagrant le harcèlement et les appels à la violence contre les juifs au milieu des manifestations anti-israéliennes intensifiées à l'université de New York. Le silence est complicité. Même ces derniers jours, nous avons été témoins de harcèlement et d'appels à la violence contre les juifs, a-t-il déclaré avant d'ajouter, cet antisémitisme antisémitisme flagrant est répréhensible et dangereux et n'a absolument pas sa place sur les campus universitaires ni nulle part ailleurs dans notre pays. La nuit dernière, le campus de l'Université de Columbia a été le théâtre d'une nouvelle scène ubuesque. Des militants pro-palestiniens ont formé une chaîne humaine pour repousser des étudiants juifs tout en leur disant de retourner en Pologne et que le 7 octobre sera chaque jour pour vous.
Des manifestations qui sèment l'inquiétude parmi les juifs sur le campus et dans les communautés juives dans leur ensemble.
Dans une lettre rapportée par la chaîne américaine CNN, le rabbin orthodoxe de l'université Eli Bushler a déclaré que les manifestations anti-israéliennes quasi quotidiennes étaient terribles et tragiques, ajoutant que même si cela le peinait profondément, il recommandait aux étudiants juifs de rester chez eux jusqu'à ce que la réalité sur le campus et aux alentours s'améliore considérablement. Ce n'est pas notre travail en tant que juifs d'assurer notre propre sécurité sur le campus. Personne ne devrait avoir à endurer ce niveau de haine, encore moins à l'école, a-t-il écrit. Suite à cette lettre de Bushler, l'Université de Columbia a accepté d'autoriser les étudiants juifs à suivre les cours à distance. Les républicains, de leur côté, se sont emparés du sujet et après une audition houleuse au Congrès, la présidente de l'Université de Pennsylvanie, Elizabeth McGill, puis son homologue d'Harvard, Claudine Gay, ont démissionné respectivement en décembre et en janvier.
Merci Raphaël Usan pour toutes ces précisions. Après une première semaine consacrée à la sélection du jury, le procès de Donald Trump entre ce lundi dans le vif du sujet en abordant les accusations contre l'ancien président. Il lui est reproché, pour rappel, d'avoir dissimulé des paiements pour acheter le silence d'une ancienne actrice pornographique. L'affaire le menace d'une possible peine de prison, et cela à quelques mois de la présidentielle. C'est une hausse record des dépenses militaires dans le monde depuis 2009. Elles ont atteint l'an dernier 2400 milliards de dollars. C'est une augmentation de 6,8% en 2023. En cause, les conflits en cours, précise l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Une base de la coalition internationale anti-djihadiste a été visée hier en Syrie par des roquettes tirées depuis l'Iran. Une vaste opération de recherche et d'inspection a été lancée dans la province de Ninive pour retrouver les auteurs des tirs. La Pologne se dit prête ce matin à accueillir sur son territoire des armes nucléaires. Elle précise que cette question fait l'objet depuis un certain temps de discussions entre Varsovie et Washington. La Russie a réagi en affirmant que si tel était le cas, elle prendrait des mesures pour garantir sa propre sécurité. Près de 500 jours après le verdict rendu en première instance, le procès en appel de deux proches de l'auteur de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais s'est ouvert ce matin. Ils avaient été condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. L'auteur de l'attentat, qui avait fait 86 morts et 450 blessés, avait été tué le jour même. Le procès de l'homme accusé d'avoir insulté puis roué de coups un fidèle juif devant sa synagogue du 20e arrondissement s'est tenu vendredi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'auteur des faits a été condamné à 3 ans et demi de prison. Laurence Goldman, vous avez suivi cette audience pour RCJ.
Oui, une peine lourde prononcée à l'issue de 6 heures d'audience pour une sanction qui est allée au-delà des réquisitoires de l'avocat général et dont les avocats des parties civiles se sont félicités, évoquant un signal fort de la justice. Le caractère antisémite de cette agression extrêmement violente a été reconnu et le coupable a été condamné à de la prison ferme. Les faits, on s'en souvient, remontent au 1er mars dernier. Il est 17h30 lorsque Marco, un homme de 62 ans, attend le début de l'office de Shabbat devant sa synagogue de la rue des Orthos à Paris. Il est alors insulté par un individu. « Sale juif, c'est toi qui tues des gens à Gaza ?» Puis il est frappé à coups de poing et de pied. Inanimé, Marco sera conduit à l'hôpital, la mâchoire cassée et victime de traumatisme crânien. Interpellé quelques jours plus tard, l'agresseur est placé en détention provisoire. Lors de l'audience vendredi, Marco a témoigné à la barre, faisant part de sa stupeur et de ses craintes. Aujourd'hui, a-t-il dit, j'ai peur que ce monsieur sorte de prison. Il habite à 100 mètres de la synagogue. J'ai peur qu'un jour, il m'assène un coup de couteau. Mais après l'énoncé du verdict vendredi soir, Marco faisait part de son soulagement et de sa satisfaction.
Je suis très, très soulagé et j'ai trouvé que la justice a été parfaite. Parfaite, exemplaire. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je suis satisfait, je me sens rassuré et je suis content pour toute la communauté juive qui se sentent un peu, j'ai l'impression que j'ai servi à les aider. Il y a de la justice, qu'il y a une part de justice qui va les rassurer maintenant.
L'agresseur de Marco, un homme de 32 ans d'origine guadeloupéenne, a également été condamné pour avoir en 2022 harcelé une famille juive ultra-orthodoxe de ce même 20e arrondissement de Paris. Menace de mort à l'encontre du père de famille, insultes adressées à son fils et sa femme, les traitant d'Amalek, d'imposteurs qui plagient, je cite, l'identité de mes ancêtres. Car le profil de l'assaillant interroge, comme l'explique Maître Serfati, l'avocat de Marco.
Fait singulier dans cette affaire particulièrement grave, le prévenu vient expliquer que les Noirs, les Nègres, nous dit-il, ont un droit sur la terre d'Israël. C'est une thèse qui pourrait faire sourire, mais qui n'est pas spécialement marrante, qui provient outre-Atlantique d'un rappeur extrêmement connu, Kanye West, qui depuis 2021-2022, je l'ai appris moi de la bouche de celui qui était le défenseur du prévenu lors de la précédente audience en mars dernier, effectivement les héritiers des Nègres, nous explique-t-il, revendiquent un droit absolu sur la terre d'Israël au détriment du peuple juif. En tout cas, c'était les mots et les explications du prévenu ce soir.
Maître Serfati, l'avocat de Marco, outre sa condamnation à de la prison ferme, le coupable a interdiction de se présenter devant des synagogues, d'entrer en relation avec les victimes, avec obligation de les indemniser pour les dommages qu'elles ont subis.
Merci Laurence Goldman pour toutes ces précisions. Alors que début mars, un drapeau palestinien a été peint sur les marches de l'escalier de la butte Sainte-Anne à Nantes, le collectif Nous Vivrons y a adossé cette nuit un drapeau israélien. L'objectif, dire non à l'importation du conflit en France et dire oui à l'autodétermination des peuples israéliens et palestiniens. Le projet de loi sur la fin de vie arrive ce soir à l'Assemblée. La commission spéciale va mener pendant un mois des auditions. Elle va également éplucher le texte et ses amendements. Première sur la ligne, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, entend expliquer notamment comment parvenir à un équilibre sur ce texte hautement sensible. Kenji Girac a été blessé par balle cette nuit sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes. Il a été touché au niveau de la poitrine. Le chanteur, dont le pronostic vital n'est plus engagé, a été hospitalisé à Bordeaux. Conscient, il a été entendu par les enquêteurs et fait état d'un accident domestique et d'une mauvaise manipulation d'une arme. Et enfin, l'Europe a connu en 2023 un nombre record de jours où la chaleur ressentie a été extrême pour le corps humain, à savoir au-delà de 35 ou de 40 degrés. On parle même de stress thermique extrême lorsque la température ressentie a dépassé l'équivalent de 46 degrés. Par ailleurs, 2 millions de personnes ont été touchées l'an dernier par des inondations ou des tempêtes. Le plus grand incendie de forêt de l'histoire du continent a également dévasté 96 000 hectares en Grèce.
C'était le journal de nos correspondants à Paris. Tout de suite, retour des programmes sur Radio Aviva.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands.
found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Toute la journée, de 6h à 20h, Radio Aviva renforce l'info avec des flashs locaux, nationaux et internationaux, 7 jours sur 7.
Hérosport vous présente l'invité sportif sur Aviva.
Amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui, nous revenons sur ce grand rallye, ce Aïcha des Gazelles du 12 au 27 avril 2024. Et nous avons une jeune fille qui participe. Il s'agit de Caroline. Caroline, bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation.
Bonjour, merci à vous de nous recevoir.
Alors dites-moi, comment en êtes-vous venue à ce rallye des Gazelles qui est très célèbre dans le monde entier?
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, c'est un projet un petit peu fou qui a commencé pour nous au mois de février cette année, tout simplement en fait avec Mounia, à l'endroit où on travaille en fait, juste en face, il y avait une voiture de rallye qui était en train de se faire préparer et on a discuté toutes les deux tout en regardant cette voiture et en fait on était émerveillés par ce qui était en train de se passer. Et du coup, en papotant comme ça ensemble, on s'est dit, mais ça serait vraiment génial qu'on puisse faire participer à ce genre d'événement, surtout que moi, je suis vraiment une grande fan de tout ce qui est pilotage, voiture, enfin voilà, etc. Et du coup, voilà, on s'est lancé un peu ce projet un peu fou, et tout est parti de là, en une matinée, on s'est dit, allez, on se lance.
Alors, voilà. Vous appartenez à un club, parlez-nous de votre club, si vous le permettez. Oui.
Non, pas de club par contre, non, on ne fait pas partie d'un club, non, pas du tout. Nous en fait...
Une association plus exactement.
Voilà, exactement. En fait, nous, il nous tient vraiment à cœur de courir en fait pour une association. Donc on va courir pour l'association de l'Arieda. Donc en fait, l'association de l'Arieda, c'est une association qui est régionale et qui est une association qui aide les personnes sourdes et malentendantes en fait. Donc j'ai moi-même un petit garçon qui est sourd et cette association nous a aidés pendant des années dans son développement, dans sa scolarité, etc. Et du coup, en fait, il nous tenait vraiment à cœur de renvoyer un peu l'ascenseur. Et voilà, c'est vraiment pour eux qu'on participe du coup à ce rallye.
Alors c'est un pari fou quand même de se lancer dans ce rallye.
Oui, tout à fait.
Parce que vous avez déjà une idée quand même des précédents rallyes de Aïcha des Gazelles.
Oui, parce que c'est quand même quelque chose, Mounia et moi, qu'on suivait de loin, mais qu'on suivait quand même. Donc oui, c'est vraiment beaucoup de préparation. Donc voilà, on est en plein dans la préparation actuellement.
Alors c'est 100% féminin, 190 équipages sur la ligne de départ.
Oui, c'est ça.
Vous êtes le seul équipage français?
Non, on est nombreuses, et notamment il y a quand même pas mal de filles de la région également. On est nombreuses gardoises.
Alors, bien évidemment, vous êtes au cœur du désert marocain.
Oui.
Et aucun repère?
Aucun repère, donc c'est vraiment de la navigation à l'ancienne. Donc, on part avec notre carte et notre boussole uniquement.
Et oui, parce que c'est uniquement en hors-piste.
Exactement, c'est uniquement en hors-piste. Donc, voilà, donc là, on se prépare justement à tout ce qui est orientation.
Et on vous interdit d'avoir un GPS. Vous aurez une carte, comme vous venez de le dire, une boussole et une règle de navigation.
Exactement.
Donc, vous avez déjà au départ une étude de la navigation et une étude des objectifs à atteindre.
Exactement, c'est ça.
Alors, bien sûr, n'oublions pas que l'équipage gagnant sera celui qui aura parcouru le moins de kilomètres et qui aboutira au but, pointant un maximum de balises éco-concept. Explique-nous un petit peu ce que sont ces balises.
Donc en fait, le matin, on va se retrouver avec une carte. Et sur cette carte, en fait, seront marquées des balises. Donc en moyenne, on a 6, 7, 8 par jour environ. Et en fait, on doit parcourir, donc on doit en fait récupérer des balises en temps et en heure quelque part. Et il ne faut pas qu'on soit hors délai. Et il faut qu'on en récupère le plus possible dans la journée, mais en effectuant le moins de kilomètres possible.
Voilà. Donc, vous allez avoir pendant 9 jours 6 étapes, dont 2 marathons.
Oui, tout à fait. Il y a 2 marathons, exactement.
Alors, vous allez vous entraîner à la fois sur le plan moral, psychologique, physique.
Oui. Donc, nous, l'entraînement a déjà un peu commencé. Donc, avec Mounia, sur le plan physique, on s'entraîne pas mal au niveau du cardio. Hein, on fait pas mal de footing. Sur le plan mécanique, on a fait un stage récemment de mécanique. D'ailleurs, on s'est aperçu que changer une roue d'un 4x4, c'est pas la roue d'une voiture. Donc, il va falloir aussi qu'on commence un peu à muscler nos bras pour être un peu plus à l'aise. Et puis après on va avoir une préparation aussi à l'orientation, bien entendu.
Vous connaissez depuis longtemps quand même avec Mounia, parce que pour conduire pendant une dizaine de jours et être côte à côte, il faut quand même avoir s'entendre à 100%.
Oui, Mounia, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, et puis on s'entend très très bien, et on a deux caractères qui se complètent très bien, voilà. Mounia est plus à l'anticipation, et moi, c'est un petit peu le contraire, mais voilà, on a deux caractères qui se complètent très bien, et voilà, je pense que ce sera une très très bonne coéquipière.
Alors, si vous permettez, on va clôturer en vous demandant, est-ce que l'objectif de cette course rallye, est-ce qu'on a fixé un objectif avec Mounia?
Alors nous, notre objectif, ça va être d'arriver à Essaouira, voilà, c'est notre objectif.
D'abord, et ensuite peut-être, en fonction du parcours, ça sera la victoire.
Exactement.
Caroline, merci de nous avoir répondu, merci de nous avoir éclairé et nous vous souhaitons bonne chance et
merci
bon rétablissement pour votre fils. Au revoir.
Merci pour votre accueil, merci.
Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Oh! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Oh! Sleeping in my bed.